Bonjour à tous. On salue les personnes là qui sont avec nous dans la salle, sur place, mais aussi tous les internautes qui nous suivent à distance. On sait que beaucoup sont en vacances, à droite à gauche, c'est la période. Et en même temps, voilà, il y a des rattrapages, on reste connecté. C'est l'avantage de la technologie. Mais on veut souhaiter une chaleureuse bienvenue, tout particulièrement à ceux qui sont en visite en Alsace. Donc merci d'avoir choisi notre belle région. On espère vraiment que vous êtes aussi bénis parmi nous. Sans plus attendre, et comme Anne l'a déjà introduit, on ne veut pas tarder à vraiment nous adresser à Dieu. Il mérite une offrande de louange. On va encore affirmer qu'il sauve avec puissance. Je lisais encore que le Seigneur, Jésus a dit « Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera ». Et le prophète Ésaïe avait aussi dit que l'Éternel s'était révélé même à ceux qui ne le recherchaient pas, à ceux qui ne le demandaient pas. Donc vous voyez, on est tous bénéficiaires de la grâce de Dieu et de l'intention de Dieu de nous rejoindre et nous prendre près de lui. On veut vraiment encore chanter « Il sauve avec puissance ».
Les montagnes, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance.
Pour toujours.
Pour toujours. Créateur du salut.
On y va.
Je chanterai je veux déclarer ma louange.
Ça peut être un nouveau départ.
De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant.
Peut élever nos voix. Tous ensemble, tu es notre Dieu, il n'y en a point d'autre devant notre face. Ensemble, un chant monte à l'éternel.
Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu inébranlable, celui qui subsiste toujours, qui règne à jamais?
Je ne sais pas si vous réalisez, notre espoir est en Dieu. C'est une bonne chose déjà. Heureusement que votre espoir, il n'est pas entre mes mains. Je ne dirai rien. Mais notre espoir est en ce Dieu tout-puissant, en ce Dieu d'amour, en ce Dieu patient, en ce Dieu qui est fidèle. Et ce qui fait que, ben, on sera inébranlable. La tempête arrivera. L'ancre, vraiment, dans le bateau, c'est vraiment qu'elle accroche au fond. Tempêtes arriveront. Il y aura peut-être des doutes inébranlables. Qui a envie d'être inébranlable? Amen. Ok, il y a une tempête qui arrive. Seigneur, tu es là. Moi, je veux être comme Jésus dans la barque qui dort pendant la tempête. Je ne sais pas vous, mais en paix, serein. Notre espoir est en Dieu. Et là, franchement, on mise sur la bonne personne. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, si vous hésitez encore, misez sur Dieu. J'ai envie de toute votre richesse, tout ce que vous êtes, misez sur Dieu. Vous avez le ticket gagnant, là, c'est sûr et certain. Amen. On va continuer la célébration et ça ne s'arrête pas là. Et on peut encourager l'équipe de louange, on peut les bénir en les applaudissant. Merci beaucoup. Et je vais faire quelques petites annonces. Comme vous le savez, hein, l'église, ce n'est pas que le dimanche matin. On en a parlé, c'est aussi toute la semaine dans nos vies quotidiennes, auprès de nos voisins, auprès de nos familles. Mais il y a aussi une vie d'église, et si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe dans la semaine, vous pouvez aller au point information et on vous donnera tous les groupes de vie de l'église où vous pourrez vous intégrer. Et si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, je vous invite à venir voir l'équipe pastorale parce qu'on est là. Boire un petit café, peut-être prier ensemble aussi. Venez, les portes seront ouvertes. D'accord, le bureau il est ouvert, je vous rappelle les horaires au cas où, de 9h à midi, 14h, 17h, du lundi au vendredi. Voilà. Comme ça, vous pouvez venir boire un petit café, discuter avec nous. Et notre deuxième annonce, comme vous le savez, ça fait plusieurs dimanches qu'on l'a fait. L'église, elle s'associe avec l'association Open Smile et ils font une collecte. Une collecte de certaines denrées, une collecte de kits d'hygiène aussi, en faveur des personnes en situation de migration, qui sont des immigrés qui sont à Calais. Donc si vous voulez participer à cette collecte, c'est le dernier dimanche normalement, mais il y a encore la liste qui est au point accueil, si vous voulez donner quelque chose pour venir en aide. C'est, j'ai envie de dire, c'est la mission de tout un chacun de porter notre aide aux plus démunis. Voilà pour les annonces. Et là, je vais inviter Mackenson à venir. On va prier pour lui. Et priez pour qu'au travers de lui, Dieu fasse des miracles encore et Dieu nous parle. Vraiment, qu'il ait des paroles ciblées. Alors, on va s'associer, bon, on s'associe tous. Seigneur, vraiment merci. Merci parce que ce matin, on a encore le privilège d'entendre parler de toi. Seigneur mon Dieu, encore d'avoir un message qui vient de ta part. Et je te prie vraiment pour Mackenson. Je te prie pour que tu lui donnes les mots qu'il faut encore, Seigneur mon Dieu, afin qu'il, Seigneur mon Dieu, nous bénisse. Seigneur mon Dieu, de ta part, merci. Pour ce qui va être apporté, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Vous allez bien? Je suis content ce matin de pouvoir partager le conseil de Dieu. Et j'aimerais nous ramener un peu en arrière, un voyage dans le passé. Nous sommes en 1970 et un groupe d'intellectuels se réunit afin de réfléchir sur le monde, sur la planète. Ils prennent le temps. Ils travaillent. Et ce groupe se donnera le nom de Club de Rome. Quelques temps après, ce groupe décida de demander à des chercheurs du très célèbre MIT, Massachusetts Institute of Technology, ça fait deux jours que je travaille à la prononciation, d'établir un rapport sur l'avenir de la planète et de l'économie mondiale. Ce rapport sortira deux ans plus tard et sera intitulé The Limit to Growth. Les limites à la croissance. Et ce rapport a eu une résonance mondiale. Pourquoi ? Dans un monde industrialisé, où la course vers le profit, la course vers les taux de croissance positifs étaient valorisés, les experts vont pointer une chose intéressante. Ils vont dire que la course vers la croissance a des conséquences négatives sur notre société. Les experts vont mettre le doigt sur des dysfonctionnements économiques que la recherche vers la croissance provoque, type chômage de masse, ou encore les différentes formes de précarité. Une autre conséquence relevée, c'est l'augmentation de la pollution. Ces scientifiques partageaient l'idée que dans un monde fini, limité, la croyance dans une croissance illimitée, infinie, devait cesser. Il convenait alors aux États de rechercher une croissance à taux zéro, c'est-à-dire de réduire leur activité économique, ou d'une décroissance soutenable qui permettrait d'apporter un équilibre dans un monde constamment tiraillé par de profonds déséquilibres. Vous êtes sûrement en train de vous dire, Mackinson, où veux-tu nous emmener ce matin ? Ne vous inquiétez pas, loin de moi l'idée de faire du militantisme. Ce que je trouve intéressant avec le mouvement de la décroissance est de saisir que dans certaines situations, la réponse devant de profonds déséquilibres passe par un ralentissement de l'activité. Bien souvent, nous avons tendance à penser que pour résoudre un problème, il faut agir. Il faut travailler plus, il faut faire plus, il faut produire plus. Les partisans de ce mouvement enseignent à mon sens quelque chose de très pertinent. Pour résoudre certains problèmes, il faut s'arrêter de faire. S'arrêter de faire, on est d'accord, c'est peut-être l'une des choses les plus compliquées pour nous. Nous sommes régulièrement en mouvement. Nous travaillons, nous servons à l'Église, nous sommes tellement parfois pris par nos différentes sollicitations que nous avons du mal à trouver du temps pour notre relation avec Dieu, pour nous et pour nos familles. Et si le retour à l'équilibre passait par le fait de faire moins, voire de s'arrêter? Et si pour corriger certains dysfonctionnements, certaines maladies que nous connaissons, la solution ne passerait-elle pas par prendre une pause? D'où le titre de ma prédication. C'est là quand la pause s'impose. C'est là est un mot hébreu. Il est une formule ou une interjection que l'on retrouve dans certains textes poétiques de l'Ancien Testament, notamment les psaumes. Il vient introduire les temps de pause, de silence, dont la récitation ou la cantillation de certains psaumes. Ce matin, nous verrons, en partant du récit de la création que nous trouvons en Genèse 1 et 2, que le repos est une chose à ne pas négliger et qu'il participe à notre santé tant spirituelle que physique. Alors, je vous amène ensemble, nous sommes en Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce verset est à la conclusion de l'un des récits de la création que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Il est intéressant de voir ici que le repos que prend Dieu se trouve à la conclusion de son activité de créateur. Dès le chapitre 1er, le lecteur se trouve devant une réalité. Le Dieu trinitaire est en action. Il crée le ciel et la terre. Et dans cette terre qui est informe, tohu, et vide, bohu en hébreu, il va progressivement mettre de l'ordre, l'aménager afin de créer un écosystème magnifique où sa création pourra prendre place. Dans ces récits, l'activité de Dieu prend place dans un cadre temporel de 7 jours. Vous le savez, il y a tout un débat sur la signification des 7 jours. Est-ce une réalité ou un symbole? Ce matin, nous n'allons pas trancher la question, mais pour ceux et celles qui seraient désireux d'avoir plus d'informations, je vous conseille la lecture du livre d'Henri Blocher, Révélation des origines. Le théologien prend notamment le temps d'expliquer les différentes positions sur cette question. Genèse 1 et 2 présentent la démarche de Dieu, d'Elohim ainsi. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. On voit ça dans Genèse 1, les versets 1 à 2. Jour 1, il poursuit son activité en créant la lumière et en ordonnant une distinction entre la lumière et les ténèbres. Au jour 2, Dieu fait un agencement dans ce qu'on appelle en théologie les eaux primordiales. Il établit une séparation entre celles qui désormais se trouveront au-dessus de l'étendue et celles qui se trouveront en dessous. Cette étendue sera nommée par Dieu comme étant le ciel. Il y eut ainsi un soir et un matin. Jour 3, Dieu fait en sorte que les eaux du dessous se rassemblent afin de faire apparaître la terre ferme. Il profita de cela pour faire pousser de la végétation et des arbres fruitiers. Jour 4, Dieu crée les luminaires pour le jour et les luminaires pour la nuit. Jour 5, il crée les animaux du ciel et de la mer. Jour 6, il crée les animaux de la terre, puis il crée l'homme à son image. Ainsi, dans le récit, le Dieu trinitaire est présenté comme l'acteur principal. Rien que dans le chapitre premier, qui est composé de 31 versets, son nom est mentionné plus de 30 fois. Il domine le récit. La création informe et vide du verset 2 laisse la place à un magnifique écosystème. Et le verset 31 du chapitre 1 en fait cela. Il est écrit « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. » Tout était très bon, un cadre magnifique. Pourtant, dans ce flot d'action, le chapitre 2 vient nous informer d'une chose importante. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La première des choses qu'on doit comprendre ce matin, c'est que le repos ne s'oppose pas toujours au travail. Je vais le répéter, le repos ne s'oppose pas toujours au travail. Peut-être que cela te paraît étrange, mais le récit de Genèse 1 et 2 nous présente le repos de Dieu comme la suite logique de son activité de créateur. Après avoir terminé son œuvre, Dieu se reposa. Bien plus, il bénit le septième jour et en fit un jour sacré. Et ce, parce qu'il se reposa du travail qu'il avait fait. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Genèse 1, 26 nous montre que Dieu créa l'homme à son image. À cet égard, le théologien Jürgen Bultmann pouvait écrire à ce sujet. Le Dieu qui se crée, son image, sur la terre, y trouve sa correspondance. C'est pourquoi la ressemblance de l'homme avec Dieu consiste en ce qu'il correspond à son tour en Dieu. Ainsi, en tant qu'image de Dieu, l'homme est dès le commencement invité à prendre part au repos de Dieu, à lui correspondre. Ceci nous parle également à nous, qui sommes disciples de Jésus en 2024. Si le Dieu trinitaire s'est astreint au repos, alors nous sommes invités également à faire de même. Le professeur Mathieu Richel a des paroles profondes lorsqu'il écrit « De manière plus surprenante, Genèse 1 est également un éloge du repos. Comme nous l'avons vu dans les 10 commandements, le repos de Dieu sert à justifier celui de l'homme durant le sabbat. » Exode 20, verset 11. Or, le fait que le modèle du repos soit enseigné à l'occasion d'un texte décrivant la création du monde n'est pas un hasard. L'association des deux éléments est importante. Se reposer, prendre un temps durant lequel on ne produit pas, c'est s'arrêter pour recevoir le monde comme un don de Dieu. Un monde que nous n'avons pas formé nous-mêmes, mais dont nous jouissons. Le repos n'est pas une mauvaise chose. Et je sais qu'en fonction de notre arrière-plan, notre système éducatif, il peut être vu comme une chose négative. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que le repos, tant qu'il n'amène pas à l'oisiveté, à la paresse, mais qu'il conduit à prendre du temps avec Dieu, avec soi, avec sa famille, est quelque chose de profondément positif et bénéfique. L'invitation que lance le Seigneur concerne toutes nos activités. Notre travail séculier, mais aussi notre ministère, service pour Dieu. Ne tombons pas dans le piège de penser que la missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu, nous pousse constamment à être en action. Car il y a cet adage qu'on dit souvent dans le milieu, car tu sais frère, sœur, Satan lui n'est jamais en vacances. En Genèse 1, Dieu fit une œuvre qui pour moi est immensément supérieure au service que je pourrais accomplir pour lui. Il crée la vie. Il crée un cadre harmonieux pour que celle-ci puisse pleinement s'émouvoir. Et pourtant, cela ne l'empêcha pas de prendre du repos. Et c'est ce que nous dit le verset 3 du chapitre 2. Dans ce verset, le verbe reposer ou se reposer rend verbe au verbe hébreu shavat. Et celui-ci pourrait se traduire par cesser de faire quelque chose. Ainsi, on pourrait traduire ce verset par Dieu bénit le septième jour et il le rendit saint parce qu'en ce jour, il s'arrêta de tout son ouvrage que Dieu créa pour faire. Henri Blocher est dans la même suite. Il écrit « Puisqu'au septième jour, Dieu cesse et se repose et qu'il bénit et sanctifie ce temps chômé. » Mon ami, quelle que soit l'importance de ton ministère, de ton service, de ton travail, cela ne doit pas exclure le fait que tu t'arrêtes, le fait que tu prennes une pause afin de te reposer. Le chapitre 2 nous montre quelque chose d'extraordinaire et difficilement compréhensible pour nous. C'est dans le repos que Dieu achève sa création. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dietrich Bonhoeffer a des paroles profondes lorsqu'il commente ce passage. Jusque dans son repos, Dieu doit demeurer le créateur. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Dieu reste créateur, mais il est désormais comme celui qui a achevé son œuvre. Nous comprenons le repos de Dieu qu'en disant que c'est en même temps le repos de sa création. Parole profonde qui arrive. Son repos est notre repos. Encore une fois, le repos ne s'oppose pas toujours au travail. Sommes-nous appelés à une forme de paresse ? Loin de là. Je pense que Genèse 2 nous donne des principes qui permettent de structurer nos temps de repos afin qu'ils soient productifs au niveau spirituel. Je vais encore le répéter, mais en Genèse 2, il est important de saisir que le repos apparaît comme la suite logique de l'activité créatrice de Dieu. C'est dans le repos que Dieu achève sa création. Et pourtant, cette pause n'est pas synonyme d'oisiveté. Le narrateur nous informe, chapitre 2, d'une donnée nouvelle, à savoir Dieu bénit le septième jour. Il lui donne un caractère sacré en le sanctifiant. En fait, Dieu contemple sa création. Il contemple l'ouvrage de ses mains. Et ceci est suffisamment important pour lui pour qu'il prenne le temps afin de s'astreindre au repos. Mon ami, toi qui sers à l'église, toi qui travailles, il est important que tu puisses te ménager des temps de pause, des temps de repos, afin que tu puisses multiplier les moments d'intimité avec ton Dieu. Il est important de savoir t'arrêter afin que tu arrives à contempler ton Dieu, aussi contempler sa création. Nous avons la grâce d'être en Alsace, où nous avons de beaux paysages à contempler. Mon ami, l'importance de la missiodémie fait au contraire qu'il te faut prendre des temps de repos, car ils sont précisément des moments de restauration, de ressourcement, des moments où Dieu va te communiquer sa pensée, ses directives pour ton travail, mais aussi pour ton service. C'est précisément en trouvant le repos dans le Seigneur que nous pouvons être certains de marcher à sa suite. Car tout était très bon lors de l'acte créationnel. Et pour notre Dieu, il était important de contempler sa création, de l'achever en se reposant pour que ses créatures puissent également profiter de ce shalom. En commentant ce passage, le professeur André Bénin écrit ceci. Ce recul émerveillé, à savoir le repos de Dieu, n'est pas insignifiant. Loin de là. Il indique avec netteté que dans son acte créateur, Elohim, à savoir Dieu, ne se contente pas de déployer sa puissance pour ordonner, transformer, produire, donner. Il sait aussi la suspendre pour regarder mieux, pour faire être ce qu'il a créé, en le considérant d'un regard qui lui ouvre un espace où il va pouvoir exister. Pour le dire autrement, le repos de Dieu est bénéfique pour sa création, pour que celle-ci puisse prendre place. La toute-puissance créatrice de Dieu ne vient pas écraser sa création. Elle ne vient pas l'aliéner, l'emprisonner, mais elle lui laisse un espace pour qu'elle puisse continuer à exister, se développer, croître, se multiplier. Et qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui en 2024 ? Il s'agit de comprendre que le repos auquel Dieu nous invite n'est pas contre-productif. Ce n'est pas une perte de temps. Le repos auquel nous sommes appelés à vivre va produire en nous du fruit. Il participe à notre santé spirituelle et physique. Il nous permet de stopper les différentes activités et distractions du quotidien afin d'être centrés sur Dieu, sur nous-mêmes et sur nos familles et nos proches. Parker Palmer peut dire la chose suivante, prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste. C'est simplement une bonne gestion du seul cadeau que j'ai reçu, à savoir nous. Le cadeau que j'étais chargé d'offrir aux autres. À chaque fois que nous pouvons écouter notre vrai moi et lui donner les soins qu'il requiert, nous le faisons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Ainsi, se reposer, prendre soin de soi, permet de devenir des disciples émotionnellement sains. Je remercie Christiane Irémion qui m'a introduit à un auteur, Peter Scazzero. J'ai commencé enfin son livre. Ça fait quelques mois. Et il y a des livres qui sont beaucoup plus faciles à lire que d'autres. Et je dois dire que le livre de Peter Scazzero, un disciple émotionnellement, devenir un leader émotionnellement sain, n'est pas simple à lire. On a l'impression que l'auteur met devant nos yeux nos erreurs, nos loupés, nos errances. Et ce livre procure cela en moi. Il me parle, il me défie, me met mal à l'aise. Pas parce que l'auteur aurait tort, mais parce qu'il a raison. Cela trouve écho en moi et montre à quel point j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin de me reposer en lui. Si vous ne le connaissez pas, Peter Scazzero est fondateur de l'église New Life Fellowship à New York. Et pendant un certain temps, il décrit son parcours dans un leadership émotionnellement malsain. Il explique que durant une partie de son ministère, il était tellement pris par les activités qu'il n'avait pas trouvé du temps pour se reposer pour lui et pour sa famille. Il écrit la chose suivante qui m'a beaucoup interpellé. Mon âme se rétrécissait. Nous avions toujours l'impression d'avoir trop à faire et trop peu de temps pour le faire. Mais si ce qui se passait à l'église était passionnant, il n'y avait aucune joie dans le ministère de direction. Juste un devoir interminable et pesant de responsabilités ingrates. Après le travail, il me restait peu d'énergie pour m'occuper de nos filles ou apprécier la présence de Jerry, son épouse. En fait, je rêvais secrètement de partir à la retraite. Et j'étais dans la première moitié de ma trentaine. Un constat qui est dur. Peut-être que tu n'es pas pasteur, mais que tu te retrouves dans les paroles de Peter Scazzero. Peut-être que pour toi, la tâche est lourde. Sache une chose, servir Dieu est une belle vocation. Et parce que cela est honorable, tu ne peux plus continuer à le servir ainsi. Servir Dieu, malgré les difficultés, doit procurer en nous une forme d'épanouissement. Pourquoi ? Car en le servant, nous sommes en relation avec notre Père. Et le ministère fait d'une manière saine ne conduit pas à l'épuisement, mais à l'édification. Dans son ouvrage, Peter Scazzero donne 3 conseils qui permettent d'équiper un leader, un disciple qui serait émotionnellement sain. 3 priorités. La première, Dieu. Important de prendre du temps avec le Seigneur. Important d'être intentionnel, de booker dans nos agendas des temps où on passe totalement avec lui. La deuxième priorité, c'est nos familles et notre personne. Important d'avoir des temps où on prend soin de notre famille, prend soin de notre mariage, prend soin de notre célibat et prend soin de nous. Et la troisième priorité, le service pour Dieu. Une tâche extrêmement importante, mais qui peut être sainement accomplie que si on respecte les 2 premières priorités. Vous l'avez compris, ce matin, il ne s'agit pas de plaider pour un retrait, pour arrêter de travailler, loin de là. Votre travail est d'une certaine façon votre vocation. Et en cela, il est une occasion où vous pouvez témoigner avec sagesse de l'amour de Dieu auprès de vos camarades, auprès de vos collègues. Le ministère que vous accomplissez pour le Seigneur est la démonstration d'une prise de conscience qu'être disciple de Christ consiste à le servir. Et l'Église représente en cela l'espace par excellence où nous pouvons servir et travailler pour la diffusion de l'Évangile. Le but de ce message est de nous faire prendre conscience que notre service pour Dieu ne doit pas nous conduire au burn-out. Notre service pour Dieu ne doit pas nous conduire à l'épuisement, mais à l'édification. Et pour que cela soit une réalité, il nous faut l'aide de chacun. Il nous faut l'engagement du plus grand nombre. Il nous faut qu'un grand nombre de personnes prennent conscience de l'importance de servir l'Église de Christ. Avec Laura, on a cette ferme conviction qui nous habite, c'est que l'Église ne se construit pas sur le talent de quelques-uns, mais sur l'implication du plus grand nombre. L'Église ne se construit pas sur le talent de quelques-uns, mais sur l'implication du plus grand nombre. Et c'est quelque part le paradoxe du message. L'appel au repos ne peut se faire que si le plus grand nombre de personnes, dont notre assemblée, se sentent concernées par la mission de Dieu et décident de s'y engager. Et à ce titre, encore une fois, l'Église locale apparaît comme étant le lieu par excellence pour s'engager pour Dieu. La vérité, c'est que nous sommes solidaires des uns et des autres. Si nous voulons que chacun puisse trouver des temps de repos, il faut que d'autres frères et d'autres sœurs s'engagent pour servir le Seigneur. Pour le dire autrement, la charge est beaucoup plus facile à porter lorsqu'on est nombreux. J'ai eu la folie, lors de la préparation de cette prédication, d'essayer d'énumérer les services qu'il y a dans l'Église. J'étais dépassé. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine, Mathieu. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup. La louange, la technique, l'enfance, les ados, les jeunes adultes, contact de rue, accueil, sécurité, et j'en passe. Il y a tant de services, tant de besoins et tant de personnes qui veulent quelque part que d'autres arrivent pour leur donner un coup de main afin de faire en sorte que la charge devienne beaucoup plus légère. Mon ami, sache que tu as ta place pour servir. Le service dans l'Église n'est pas le domaine réservé à une élite, mais il est la prérogative des disciples de Jésus. Mon ami, ne crains pas de t'engager. N'aie pas peur de te lancer. La vérité, c'est que l'Église de Christ ne peut se bâtir sans que tu viennes apporter ta pierre à l'édifice. Une question que je me pose. Et si ces temps de vacances ne pouvaient pas être l'occasion pour toi de prendre du temps dans la prière afin de savoir dans quel service tu pourrais aider l'Église à la rentrée? La moisson est grande et tu es pleinement invité à rejoindre les grands. Encore une fois, je le répète, l'Église ne se construit pas sur le talent de quelques-uns, mais sur l'application du plus grand nombre. Et ce principe de collaboration, nous le voyons en activité dès les premières pages de la Genèse. La toute-puissance de Dieu que nous voyons en activité ouvre la porte à la participation de certains éléments de la création. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu crée l'homme à son image et il l'implique également dans le processus de création. L'homme devait ainsi se multiplier, mais aussi être le gardien de la création. Son leadership se construit dans la collaboration avec le Seigneur. La lecture de la suite du récit est intéressante, car elle semble mettre en avant un lien étroit entre le repos que Dieu prend et l'implication de l'homme dans ce processus de création. Pour le dire autrement, Dieu se met en retrait, il se met en pause, car il a donné à l'homme la mission de poursuivre la création. André Vénin dit la chose suivante. Dans le même sens, on note que le Créateur n'hésite pas à déléguer le pouvoir à des créatures. De son côté, l'espace terrestre est placé sous la responsabilité de l'humanité qui aura à s'en rendre maître, tandis que les animaux lui seraient soumis. Ayant ainsi remis son pouvoir, Elohim pourra se retirer le septième jour. Mes amis, le chemin vers un service, un leadership émotionnellement sain, ne peut s'accomplir sans le relais volontaire de notre frère et de notre sœur. Nous avons besoin des uns et des autres. L'implication des uns et des autres permet à ce que le corps du Christ puisse prendre des temps de repos avec le Seigneur. J'arrive à la conclusion et j'invite l'équipe Louange à me rejoindre. Vous l'aurez compris, ce matin, il y a une douce invitation à faire autrement. Une invitation à saisir que ces temps de pause, ces temps de repos vont venir nourrir, et je reprends les propos de Hollande, les zones 1, 2 et 3 de notre résistance. Je vous renvoie à sa dernière prédication sur notre chaîne YouTube. Il y a également une invitation à saisir que cet effort est collectif, communautaire. Toute notre Église est appelée à poser les bases pour que nous puissions vivre ces dynamiques. Je répète encore une fois, l'Église se construit non sur le talent de quelques-uns, mais sur l'implication du plus grand nombre. Mes amis, soyons intentionnels. Prenons le temps de construire nos semaines en y incluant cette dimension de repos. Tout comme vous, je suis sur le chemin et il m'arrive de me tromper. Mais j'apprends une chose, c'est que chaque jour, je réalise à quel point nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour l'adorer, pour le servir. Et nous trouverons véritablement le repos en lui. Un père de l'Église comme saint Augustin l'avait parfaitement compris. Il pouvait dire, tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Soyez bénis.
On vous propose un chant qui nous permet vraiment de méditer encore cette parole et peut-être de, comme cette période est souvent l'occasion de recalibrer un petit peu les choses, qu'on puisse prendre ce chant qui est simplement une prière pour un cœur à cœur avec toi Seigneur, de se dire où est-ce que je peux réajuster les choses pour vraiment être proche de toi et trouver ce repos qui vient de lui, de notre Créateur.
Encore quelques secondes dans un moment de rétrospection intérieure et de se dire ok, Seigneur, je viens d'entendre ce message. Une pause s'impose. Et souvent, on se laisse par les activités, par tout ce qu'il y a, même en vacances parfois. J'ai entendu cette semaine une personne qui disait : les gens organisent plus leurs vacances que leur vie. Et je pense que quelque part, avec ce message, il est question d'organisation aussi, de quand est-ce que je peux mettre ces temps de pause, des temps de cœur à cœur avec mon Seigneur, des temps de cœur à cœur aussi avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, des temps aussi de cœur à cœur avec mes voisins, avec mes amis. Et c'est vrai que le plus important, c'est avoir ce temps de cœur à cœur avec Dieu, mais ne pas négliger aussi les temps de cœur à cœur avec les autres. Et à un moment donné, de se dire, mais Seigneur, dans l'église locale, où est-ce que tu me veux ? Où veux-tu que je te serve ? Alors on va laisser la musique un peu, quelques secondes, vraiment pour que se questionner et prendre la décision concrète, même l'écrire si vous le voulez, pour dire, ok, j'ai trouvé. Quel temps doit changer dans ma vie ?
Pas l'anglais, il nous a béni, tout simplement béni l'église internationale que nous formons. C'est vrai que c'est une bénédiction. Et pour répondre encore, on veut juste vraiment être dans la réponse aussi au message qu'on a entendu ce matin. Donc on va reprendre ce chant tout simplement, mais en même temps vraiment
faites encore ce temps de réflexion, de se dire ben, comment est-ce que je peux, comment je peux faire, comment je peux poser les choses pour que vraiment je puisse vivre cette dimension du repos dont Mac a parlé ce matin.
Bon, la présence de Dieu. On aurait envie de dire encore, encore et encore. Mais la présence de Dieu, on peut la vivre chaque jour, chaque moment, même quand on dort. Faut pas être des êtres qui sont dans le faire, mais soyons dans l'être aussi, de vivre la présence de Dieu H24, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on vit. Amen. S'il y en a que ce message les a percutés, les a touchés, ou si vous avez un sujet de prière, quelque chose qui vous travaille, vous allez avoir toute une équipe qui se tient à votre disposition, on y est, qui sera sur votre droite, voilà, et qui vous écoutera et priera avec vous et partagera avec vous. En tout cas, on vous souhaite un bon dimanche, à nos internautes aussi un bon dimanche, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.